écriture, émission animée par Michel Bernard. Chers auditeurs, bonsoir. Nous accueillons Edgar Morin, l'un des plus grands penseurs vivants, pour une émission spéciale « Message aux citoyens du XXIe siècle ». Cette émission a été enregistrée le mercredi 24 février à Paris, dans le bureau d'Edgar Morin à l'Institut de communication du CNRS et de Paris-Sorbonne. Moment très émouvant, moment unique, moment offert aux auditeurs de Paroles d'Écriture et aux auditeurs d'Agora Côte d'Azur. L'entretien a duré une heure. Pour cette émission, nous avons dû retenir, hélas, 20 et quelques minutes. Dans une première partie, je lui pose une question, il répond, nous arrêterons inévitablement, et puis nous écouterons un morceau de musique qu'Edgar a fini pour terminer cette première séquence, et nous reprendrons ensuite pour écouter la fin de notre entretien, là où il répond à un questionnaire que je lui pose. Et je clôturerai cette émission en vous disant où vous pouvez écouter la totalité de l'entretien. Alors restez avec nous pendant une heure et nous écoutons d'abord Edgar dans sa première partie. Edgar, bonjour. Merci de nous recevoir dans votre bureau à l'Institut des sciences de la communication CNRS Paris-Sorbonne. Merci en mon nom, mais aussi au nom de tous les auditeurs qui, en France et dans le monde, vont vous écouter présentement, comme disent les Québécois, et dans les années à venir, puisque les documents seront là encore dans des années, peut-être 10 ans, je n'en sais rien. Ne parlons pas de votre âge, car vous avez tous les âges de la vie. Vous avez parcouru le XXe siècle et vous commencez le XXIe siècle. Vous avez publié environ 80 ouvrages et beaucoup de livres réduisent le nombre de livres que vous avez publiés, y compris le dernier Pensée globale qui parle, je crois, d'une 60aine de livres, mais il y en a bien plus. Reçu une 30aine de doctorats honoris causa. Je mets une 30aine, car je ne sais pas où ça s'arrête exactement. Vous êtes reconnu comme l'un des plus grands penseurs contemporains. Et on ne peut plus parler de la complexité hors de votre pensée, qui en plus par la variété des sujets abordés, votre vision est une invitation à penser complexe et à penser global. Mais en plus de tout cela, ce qui chez vous m'impressionne, me touche, c'est en tout votre simplicité, votre bonté, votre esprit d'enfance, pétri de curiosité et d'admiration qui vous habite, cette connaissance en un mot et cette connaissance en deux mots. Vous êtes présent au présent comme présent, avec un esprit vif, créatif, ouvert, explorant sans cesse la connaissance. Et je m'interroge, et je me pose la question que certains Chinois se posent, est-ce que finalement, vous revenez pas en arrière pour retrouver la plénitude de votre enfance qui ferait que vous resteriez avec nous quelque temps? Mais soyons sérieux, vous Edgar, qui avez écrit il y a peu de temps « Nous vivons le commencement d'un commencement », quel message aux citoyens du XXIe siècle avez-vous envie de laisser?
Mais écoutez, le premier message est un message de conscience. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans une époque à la fois de changements accélérés, d'événements imprévus qui du reste vont se multiplier, et de processus mêlés les uns les autres, politique, économique, militaire, religieux, etc. Et donc c'est une époque, nos temps que nous vivons, est très difficile à connaître et à réfléchir. La difficulté, elle tient tout d'abord au fait qu'on ne prend vraiment conscience de quelque chose qui arrive qu'avec un certain retard. C'est ce que disait Hegel. Il disait « L'oiseau de Minerve prend son vol au crépuscule. » L'oiseau de Minerve, c'est l'oiseau de la raison, de la sagesse. Ben, c'est très tard qu'il prend son vol, et peut-être trop tard. La deuxième raison, c'est la complexité de ces phénomènes accélérés, que l'accélération rend encore plus difficile à comprendre. Puisque nous sommes dans une époque de mondialisation où se heurtent des processus très différents les uns aux autres et où sont concernés tous les habitants de notre planète, toutes les nations, avec des interactions très difficiles à suivre. Alors, prendre conscience que nous sommes donc dans une époque de transformation, et où va-t-on? Et moi, c'est ce que j'ai tenté de faire dans un livre qui s'appelle La Voix, qui pour dire que j'ai le sentiment que si on se fie à ce qu'on appelle la probabilité, et la probabilité, c'est quoi? C'est ce qui, pour un observateur en un lieu donné, en un temps donné, qui dispose de très bonnes informations sur les courants qui traversent le présent, eh bien, il transporte dans le futur ces courants-là. Alors, je dis que si on se fie aux probabilités, l'avenir est très inquiétant. Pourquoi? Ben, parce que nous nous rendons compte que la planète est comme un vaisseau spatial qui est propulsé par les moteurs que sont la science, la technique, l'économie, mais il n'y a pas de pilote pour aucun des moteurs, et évidemment, il n'y a pas de pilote dans l'ensemble du vaisseau spatial. Alors la science, bien sûr, elle progresse pour le meilleur, mais aussi pour le pire, puisque ça a commencé avec Hiroshima, et ça continue avec l'arme nucléaire, les manipulations génétiques ou autres qui peuvent être très utiles, qui peuvent être aussi très néfastes. Bon, la technique n'est pas contrôlée. Est-ce que c'est nous qui contrôlons la technique ou est-ce que c'est la contre-technique qui contrôle les humains? Eh bien, de plus en plus, ce sont les forces anonymes de la technique. L'économie, elle est dérégulée. Et ça, nous le voyons avec une évidence depuis la crise de 2008 qui rebondit d'épisode en épisode. Et tout ça nous montre que la spéculation financière règne dans ce domaine, c'est-à-dire la recherche du profit immédiat, sans aucune considération autre. Et si nous pensons qu'il y a ce processus où la finance règne, où l'économie n'est pas contrôlée, ni la technique, et qu'en même temps, la crise, l'unification techno-économique de la planète a provoqué de façon paradoxale la balkanisation. Par exemple, en 1990, quand la planète est unifiée parce que le capitalisme libéral s'est engouffré en Russie, en Chine, dans tous les pays soi-disant socialistes, et que au même moment se sont développés les moyens de communication immédiate, téléphone, internet, etc. C'est-à-dire que toute la planète est techno-économiquement unifiée. C'est le moment où se disloque l'Union soviétique et des guerres ont lieu entre Azerbaïdjan et Arméniens qui vivaient cordialement côte à côte. C'est le moment où un pays presque achevé comme la Yougoslavie se décompose. C'est le moment où la Tchécoslovaquie devient deux portions au lieu d'une. C'est le moment où partout des mouvements irrédentistes d'autonomie se multiplient. Donc, c'est le moment où des cultures commencent à se refermer. Déjà, ça avait commencé avec l'Iran, et ça se continue de plus en plus, de peur d'être englouti par l'occidentalisation et la technisation. Donc, bah, c'est notre univers. Et en plus, c'est très difficile de le penser. Parce que, d'un côté, il faut être pour la mondialisation de tout ce qui permet la communication, la culture. Et on le voit à quel point elle est favorable aujourd'hui que nous connaissons des méthodes asiatiques, chinoises, hindouistes, n'est-ce pas, de trouver la sérénité ou la quiétude. On voit très bien à quel point c'est fécond. Je le vois pour le cinéma, je découvre des films philippins, des films africains. On découvre le monde, c'est merveilleux. Mais en même temps, c'est un processus qui est terrible parce que il détruit des solidarités traditionnelles en détruisant peut-être des oppressions qui étaient l'oppression du patriarche, du chef de famille, et qu'il libère les jeunes et parfois les femmes. C'est positif, mais en même temps, il apporte en même temps qu'une certaine prospérité partielle, une misère énorme des bidonvilles. Et ce qu'il apporte comme remède, c'est notre civilisation, qui elle-même est en crise, parce que nous-mêmes nous souffrons de cette civilisation vouée à la consommation, à l'immédiat, au profit. Donc, nous nous rendons compte que dans ce moment, on est agité par des forces de destruction. Et à ce moment-là, le message est de dire prenons conscience, parce que la voie de la probabilité n'est pas du tout la voie de l'inéluctabilité. Parce que dans l'histoire, nous avons vu souvent l'improbable arriver. Et je donne un exemple vécu, qui est qu'en décembre 1941, alors que l'armée allemande était arrivée aux portes de Moscou, dominait toute l'Europe, que les États-Unis étaient isolationnistes, que l'Angleterre était isolée dans son île, qu'il semblait que la prédiction d'Hitler d'une longue domination du nazisme sur l'Europe était inéluctable. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que dès l'automne, des pluies diluviennes imprévues ont d'abord immobilisé l'armée allemande dans la boue et qu'ensuite, un hiver précoce, les congelait. Et donc, Moscou n'a pas été prise. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en décembre 41, au début du mois, Staline a confié au général Joukov le soin de faire la contre-offensive et ça a été la première. Les armées allemandes ont reculé de 200 km, Moscou a été libérée et deux jours après, l'Amérique entrait dans la guerre après l'attaque de Pearl Harbor. C'est qu'en trois jours, ce qui était probable commence à devenir moins probable. Donc, si vous voulez, moi, toute ma vie, je pense qu'il n'y a pas de fatalité. Mais ça ne veut pas dire qu'on va trouver la solution. On est toujours dans le risque. Et je dis, il faut accepter l'aventure et le risque. Pourquoi? Parce que, et c'est là, à mon avis, le sens profond de ce qu'est l'humanisme. L'humanisme, un humanisme que moi je dis qu'il faut régénérer. Pourquoi il faut le régénérer? Parce que l'humanisme traditionnel de notre civilisation occidentale, il avait deux visages. Un premier visage, très bien exprimé par Montaigne, le premier. Il a dit quoi, Montaigne? Il a dit « Tout homme est mon compatriote ». Et ce principe a été repris par Montesquieu, qui dit « Si quelque chose est utile à ma patrie et néfaste à l'humanité, ben je ne ferai pas la chose utile à ma patrie ». Et ça a été repris dans les principes de la Révolution française. Liberté, égalité, fraternité. Tous les êtres humains sont égaux, se méritent d'être bien traités, quel que soit. C'est-à-dire le principe qu'il faut reconnaître la dignité humaine à tout être. C'est un principe fondamental. Mais ce n'est pas que ça, parce que l'humanisme avait un deuxième visage. C'est l'homme, le roi de l'univers. L'homme qui peut manipuler les êtres vivants comme si c'était des objets. Et ce deuxième visage a été très néfaste parce qu'il a fait comme si la nature était cette chose qu'on peut manipuler à merci. Et le résultat, c'est que nous dégradons le biosphère justement par le déchaînement incontrôlé de notre technique, de notre économie. Donc, c'est ce village de l'humanisme. Nous sommes liés à la vie. Nous sommes des enfants de la vie. Nous sommes des enfants de la Terre. Tout ce que nous a appris la théorie de l'évolution nous montre que nous sommes nés de cette planète et que nous sommes liés à toutes les forces vivantes. Donc, c'est cette conscience de l'appartenance à la Terre et je dirais plus largement à l'univers. Mais je dirais que ça ne suffit pas encore. Pour moi, l'humanisme, c'est de dire je ne suis qu'en tant que personne, je suis une petite percelle, un corpuscule, un moment d'une gigantesque aventure qui est l'aventure de l'humanité. Cette aventure qui a commencé dans ce qu'on appelle la préhistoire, qui a commencé peut-être, disons, il y a 100 000 ans, où a commencé à surgir cette espèce d'homo sapiens, qui déjà avait le même cerveau que nous, c'est-à-dire que Einstein, que Léonard de Vinci, que Hitler, mais qui n'a pas pu, il n'exploitait pas ses capacités, mais pourtant capable de faire des peintures rupestres formidables, qu'on est passé de ces civilisations archaïques de quelques centaines d'habitants, de chasseurs-ramasseurs à des civilisations historiques, et qu'aujourd'hui, nous passons à l'ère planétaire, et nous ne savons pas où va l'humanité, mais nous faisons partie de cette aventure, et nous voulons qu'elle continue pour le mieux, et qu'elle ne se termine pas dans le suicide. Et si vous sentez profondément que vous êtes à l'intérieur de cette aventure, là, alors à ce moment-là, vous vivez quelque chose de fort, et je pense que si les jeunes savaient aussi, sentaient en eux cette chose-là, ils sentiraient en eux la pulsion pour faire des choses dans le sens-là. Moi, j'en connais qui partent avec Médecins Sans Frontières ou d'autres associations pour aider les misères en Afrique et dans d'autres régions. Il y a mille façons d'aider les autres, d'être solidaires. Et donc, si vous voulez, on a quelque chose qui peut nous transporter. Et c'est ça, c'est un message. Pourquoi ? Parce que je pense que, bien entendu, il y a beaucoup de personnes qui sont des croyantes dans différentes religions et leur foi n'empêche pas d'avoir des sentiments humanistes. On peut être bouddhiste, on peut être musulman, chrétien, on peut y avoir on peut vivre cet sentiment d'appartenance à l'humanité. Ce sont des religions destinées à tous. Bien entendu, elles ont souffert, sauf le bouddhisme, de formes de dogmatisme et de fanatisme, et s'en souffrent encore, mais elles ont quelque chose qu'elles peuvent contribuer. Mais moi, je parle aussi au nom de ceux qui sont, ils ne sont pas liés à ces religions de salut céleste. Et je dis que quand on n'est pas lié, alors on peut dire, ah ben oui, c'est affreux, on n'a qu'une vie, on va mourir, on est mortel, à quoi ça sert, c'est absurde. Moi, je ne dirais pas qu'on peut vivre sans aucune angoisse de la mort. Non. D'ailleurs, moi, c'est très curieux, personnellement. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup plus d'angoisse de la mort que maintenant, à 94 ans. Et pourquoi ? Mais parce que je me disais, c'était l'époque de la guerre.
Voilà. Nous allons continuer dans la deuxième partie. Nous allons continuer dans la deuxième partie à entendre Edgar Morin. Si vous voulez entendre la totalité de cet entretien, une heure, vous allez sur le site http://www.art au pluriel, lié à culture au pluriel, lié à éducation singulier.com/. Nous allons donc tout à l'heure retrouver Edgar pour la fin de l'entretien. Vous voyez à 94 ans le message qu'il nous laisse. Mais si vous voulez, pour assurer la transition avec la partie qui va suivre après les informations, écoutons le deuxième mouvement du quintet de Schubert qu'Edgar lui-même a choisi. Voici la fin de l'entretien avec Edgar Morin et ses réponses au questionnaire de notre émission « Message aux citoyens du XXIe siècle ».
Il y a la question du penser. Comment expliquez-vous que le penser global et le penser complexe avancent si lentement ?
Bien, parce que les structures mentales et institutionnelles de notre système d'éducation sont totalement sclérosées. Et pourquoi sont-elles sclérosées? C'est parce que les, prenons les enseignants des lycées qui ont été des militants ardents de la République au siècle dernier, mais aujourd'hui, un enseignant de lycée, c'est quelqu'un qui est dévalué, qui a perdu le prestige auprès des élèves qui jouent à Internet ou dans les médias, auprès des familles, et donc qui se réfugie dans sa discipline. Et tous les efforts pour faire de l'interdisciplinarité dans les lycées ou collèges se heurtent à leur résistance. Quant aux professeurs d'université, chacun est souverain maître de sa discipline, de son jardin, qu'il arrose, et donc il ne s'en tient pas compte des autres. Donc, si vous voulez, alors que le besoin de relier les connaissances est de plus en plus urgent, au contraire, on voit la tendance à la refermeture disciplinaire qui est de plus en plus forte. Il y a un progrès, si vous voulez, moi je vois de la pensée complexe, mais les progrès de la pensée non complexe sont encore plus rapides et plus profonds. Donc voilà le paradoxe. C'est un peu du même paradoxe que celui dont je vous parlais en disant le monde s'est unifié du point de vue technique, économique, et le résultat, c'est une balkanisation qui s'est faite sur le plan des cultures et des nations. Donc nous avons comment réussir à faire prendre ces conscience, c'est très difficile, parce que tous ceux qui en prennent conscience se trouvent dispersés, mais ne peuvent pas se trouver concentrés au cœur d'une institution. Et même si je dirais aujourd'hui un ministre de l'Éducation mettait au programme des lycées les thèmes que je dis qui sont vitaux, il ne trouverait pas les professeurs pour le faire. Il faut former des formateurs. Donc voilà la situation, du reste, tragique.
Alors, il y a aussi ce thème de l'insécurité, je veux dire, qui se développe avec des réponses qui semblent complètement déplacées, inutiles. Enfin, je veux dire, c'est un thème majeur et qui va s'amplifier.
Bien sûr.
Hein? Et puis, il y a le thème des communautés, c'est-à-dire, que vaut encore la démocratie? Faut-il parler, comme l'un de vos collègues, de démopraxis?
Oui.
Est-ce qu'il faut inventer autre chose? Mais on a à réinventer complètement les relations dans ce domaine, non?
Oui. Ben... Bon, du point de vue de la démocratie et donc du politique, c'est qu'on n'a pas encore assez approfondi la nature de la démocratie. Car la démocratie, c'est pas seulement la victoire d'une majorité provisoire. La démocratie, c'est le jeu de l'opposition et du conflit entre les idées. Mais jeu suffisamment régulé pour qu'il soit productif. Parce que si le jeu du conflit n'est pas régulé, on se donne des coups de poing, on se bat, ou bien on se fait des putsch. Donc, la démocratie, c'est accepter les idées adverses comme faisant, étant nécessaire, et respecter les minorités qui, en général, n'ont pas les moyens de s'exprimer, leur donner les moyens. Mais j'ajoute une autre idée que sur laquelle avait insisté Claude Lefort, c'est que la démocratie n'a pas de vérité. C'est-à-dire que une vérité provisoire gouverne avec le parti qui a été élu, remplacé par une autre vérité. Or, quand il n'y a pas de la démocratie, qu'on vit une dictature totalitaire, on rêve de démocratie, de liberté. Mais une fois que la démocratie existe, elle n'a pas une vérité transcendante qui vous illumine. Et donc, ça devient banal. C'est comme le pain quotidien. Et on ne comprend pas que sa vérité est dans sa non-vérité par rapport au système qui donne la vérité absolue, comme l'idéologie nazie ou l'idéologie stalinienne. Donc, si vous voulez, il faut comprendre que la démocratie nécessite un certain nombre de conditions pour s'enraciner, des conditions historiques. Elle met beaucoup de temps. Regardez en France, là, toutes les interruptions qu'a connues la démocratie, y compris jusqu'à Vichy, alors qu'en Angleterre, qui est une île qui n'a pas connu tellement de guerres, c'est progressivement, elle s'est établie. Donc, il y a ça qu'il faut comprendre là-dessus. La crise de la démocratie, elle est très réelle. Pourquoi? Parce que de plus en plus, les solutions politiques qu'on apporte ont un caractère technique, scientifique, ésotérique, et que l'opinion ne comprend pas, ce qui fait que les électeurs sont dépossédés. Et je pense que là aussi, Il faudrait une culture scientifique qui soit donnée aux citoyens. Ça, c'est une chose importante. Et il y a aussi le fait le plus grave, je crois, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, démocratie, c'est un jeu de combat entre des idées. Aujourd'hui, il n'y a plus d'idées. Il n'y a absolument aucune idée. Et ceux qui étaient censés apporter des idées de renouveau, de futur, ce qu'on appelait la gauche, un peu bêtement, parce qu'il y avait plusieurs gauches, mais enfin bon, et ben, tout ça est en crise totale. L'idée. Donc, si vous voulez, on est dans une période très dangereuse pour la démocratie. Et espérons que il y aura une régénération possible, mais on n'en voit pas le chemin. Mais le chemin de la régénération, je crois, est celui de ces forces nouvelles qui vont créer un besoin d'une autre civilisation. Et ce besoin d'autre civilisation va finalement peser sur l'esprit des politiques et peut-être agir.
Merci Edgar. Mais avant de conclure ce petit questionnaire qui n'a rien à voir avec Pivot ni avec Proust, 12 questions. Oui. 3 mots qui rendent présent votre enfance.
C'est émerveillement, étonnement, rire.
3 personnes vivantes que vous admirez le plus.
Eh bien, écoutez, il y a le Dalai Lama, qui est vivant. Il y a Mandela est mort. J'admirais beaucoup Umberto Eco, il vient de mourir. J'ai des trous de mémoire, excusez-moi.
Ce n'est pas grave. À ce jour, qu'est-ce que vous avez le plus négligé de vous ?
Le plus négligé de moi ?
De vous, oui.
Ben écoutez, c'est que... C'est plutôt, je veux dire que... Un de mes défauts importants, c'est la négligence. Mais il y a beaucoup de choses que je néglige. Mais j'essaie d'être fidèle... notamment à mes amis, et notamment à mes amis qui sont morts. Mais j'ai beaucoup négligé... D'abord, j'ai totalement négligé le problème de l'argent, ce qui fait que je me trouve à la fin de ma vie, au lieu d'avoir un patrimoine, j'ai tout donné et dispersé. J'ai beaucoup négligé. Beaucoup d'aspects de prestige, de notoriété. J'ai négligé tout ça. Dans le fond, j'ai voulu, comme je l'ai écrit souvent, j'ai voulu avoir une vie et non pas une carrière. Donc j'ai négligé toutes les carrières. Je suis entré jeune, enfin, à 30 ans au CNRS, et j'ai terminé. Je suis émérite, mais enfin, sans chercher autre chose. Mm-hmm. Voilà. Donc j'ai négligé tous ces aspects extérieurs de vanité, je crois.
3 rêves pour la suite de votre voyage terrestre.
Ben, je dirais... C'est la chanson de Mignon. Connais-tu le pays fleuri l'oranger, le pays des blés d'or et des roses vermeilles? C'est là où je voudrais vivre, aimer, vivre et mourir. Je crois que pour l'Italie, pour la Toscane, pour Rome, tout ça, j'ai un amour pour ça, un rêve. Oui, qui est très profond, le rêve d'y vivre et mourir, voilà. Je rêve de trouver une stabilité et une sérénité matérielle que j'ai pas encore trouvée maintenant. Et le troisième rêve, c'est que j'aimerais entrevoir la possibilité d'une voie nouvelle que prendrait notre civilisation et notre humanité.
Selon vous, qu'est-ce que vous allez laisser en friche après votre mort ?
Je crois que, comme sans arrêt, on découvre de nouvelles choses sur l'univers et sur la vie, et que ces découvertes nous ouvrent de nouveaux mystères, de nouvelles inconnues. Ce que j'aurais laissé en friche, c'est l'aventure de la connaissance, c'est l'aventure de la pensée. Elle sera arrêtée avec ce que j'ai connu. Voilà.
Vous avez tous les pouvoirs, Edgar. Quels sont les 3 actes majeurs que vous posez ? Vous avez tous les pouvoirs, possibles et imaginables. Quels sont les 3 actes majeurs que vous voulez poser ?
Mais écoutez, je fais j'impose une constitution planétaire qui permet d'éviter les guerres. j'établis un système qui permet une répartition des nourritures et d'éviter les famines. Et en plus, je crée un système éducatif qui enseigne la compréhension humaine à la complexité.
Votre devise ?
J'en ai plusieurs, mais j'en ai une, c'est « Ce qui ne se régénère pas, dégénère ».
Selon vous, quels sont les trois mots que vous prendriez pour parler de l'autre ?
L'autre, il est à la fois semblable et différent de moi.
Selon vous, quels sont les trois mots que vous prendriez pour parler du monde actuel ?
Incertitude, désarroi, inquiétude.
Et les trois valeurs qui fondent la vie, selon vous ?
L'amour, l'amitié et la curiosité.
Le sens de la vie, c'est quoi, selon vous ?
C'est la vie elle-même.
Bon, merci Edgar. En tout cas, je voudrais terminer cet enregistrement en disant que vous êtes à la fois une voix et une voix. Alors, une voix pleine de pépites, et je crois qu'il y a énormément de matériaux pour construire cette nouvelle civilisation que vous appelez de tous vos voeux. Et puis une voix par vos paroles, par vos écrits. Et là, il y a des traces absolument nouvelles, très originales, et surtout des perspectives pour que ceux qui vont vous suivre puissent continuer. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, cet entretien, deux séquences. Pour la totalité de l'entretien, je vous le rappelle, allez sur le site http://www.art-culture-education-relié.com/. Que dire ? D'abord, merci à Edgar, et je lui dis, parce que je sais qu'il écoute ce soir cette émission, vous êtes apprécié dans la région et vous appréciez notre région. En octobre, vous étiez le président du Festival du Livre de Montsartou, le troisième en France. Vous êtes, à votre demande, venu à Cabris rendre hommage à Georges Feynman, qui vous a fait rentrer au CNRS. Beau témoignage de votre amitié. À votre demande, j'insiste. Et il y a dans Cabris, là où a résidé Georges Feynman, une trace de vous à jamais. Votre pensée navigue entre l'analyse des barbaries et un humanisme nouveau pour avoir le courage de construire cette nouvelle renaissance encore possible, cette nouvelle voie, comme vous dites, que vous aimeriez voir avant de nous quitter. Nous allons terminer cette émission, j'allais dire, en écoutant « Chemin faisant », ce poème de Machado que vous aimez énormément, que vous citez régulièrement. Nous allons l'écouter avec la voix d'Ana Paula, en partie en espagnol, en partie en français et en partie en anglais.
Antonio Machado.
Chemin faisant, en marchant se construit le chemin, 1917.
Se hace camino al andar. Caminante son tus huellas, el camino y nada más. Caminante no hay camino, se hace camino al andar.
Marcheur, ce sont tes traces. Ce chemin est rien de plus. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Le chemin se construit en marchant. En marchant se construit le chemin. Et en regardant en arrière, on voit la cendre que jamais on ne foulera à nouveau. Marcheur, il n'y a pas de chemin. Seulement des sillages sur la mer.
Wanderer, it is your tracks, which are the roads and nothing else. Wanderer, there is no road. Walking makes the road.
Voilà. Qu'ajouter en plus pour terminer cette émission Paroles d'écriture, que volontairement, sur le thème du message, j'ai laissé parler s'exprimer Edgar. Et le dialogue n'a eu lieu qu'à la fin. Si vous écoutez la totalité de l'émission, vous vous en rendrez compte vous-même. Pourquoi ? Parce que dans beaucoup d'entretiens, radio et télévision, le temps court et le questionnement parfois intense et rapide ne facilitent pas l'exposé de sa pensée. Là, ce soir, au moins dans la première partie, et vous verrez dans la totalité de l'entretien, Edgar s'exprime sans être arrêté.
Il navigue et il garde le fil d'Ariane. À 94 ans, il est présent et il répond simplement et pleinement. Sachez enfin que, en accord avec lui, je vais réaliser pour juin 2016 un travail que je remettrai sur un site d'une cinquantaine de pages à peu près, dont le titre sera « Vers une autre civilisation » et les bases seront des écrits récents d'Edgar Morin. Un article paru dans le 1, Changer de voix, en 2016, le numéro 94. Un article « Temps est venu de changer de voix », aussi le Tribune, 2016. Son ouvrage « Penser le global », son ouvrage récent avec Michelangelo, en 2015, « Impliquons-nous ». Et enfin, l'ouvrage « L'aventure de la méthode », aussi paru en 2015, et cette émission. J'essaierai dans une première partie d'esquisser la vision d'Edgar dans tout ce qu'il dit, en ayant une douzaine d'entrées, de la mondialisation à l'éducation, à la culture, etc. Puis j'essaierai dans une deuxième partie d'esquisser ses réponses, ses contributions, cette voix nouvelle dont il nous parle, dont il nous parlait ce soir. Et puis dans la dernière partie, peut-être plus personnelle, j'essaierai de dire, selon moi, comment cette transition peut être envisagée. Cette transition qu'Edgar nous redit constamment, qui oscille entre les barbaries possibles et des barbaries nouvelles, et un humanisme nouveau, incertain, qui peut arriver, qui n'est pas sûr d'arriver, mais que nous avons le courage de construire, car c'est la seule possibilité d'imaginer une renaissance pour un monde qui est bouleversé, qui est incertain et qui peut aller à la catastrophe. Edgar, je le rappelle, né en 1922, il a traversé le XXe siècle et en ce début du XXIe siècle, il continue son œuvre qui a plus de 80 ouvrages à ce jour, des articles très nombreux, un film et une présence très engagée. Engagée pour l'humanisme et pas pour un courant politique comme certains le croient. Il est l'un, à l'évidence, des plus grands penseurs vivants. Quand il nous a reçus dans son bureau, il était là. Il était fatigué, certes, mais présent. Vous avez dû vous en rendre compte. Alors nous allons terminer cette émission en écoutant un autre morceau de musique qu'il a lui-même choisi, le premier mouvement de la 9e symphonie de Beethoven. Cette symphonie de Beethoven, qui, vous le savez, est l'hymne européen. Et dans l'un des livres que Edgar a écrit, il y a ce livre, L'Europe entre barbarie et humanisme. Je n'ai dans ma vie jamais rencontré un homme aussi ouvert, aussi cultivé, aussi à l'aise dans cette navigation de la pensée complexe où le « ou » a remplacé le « et », c'est-à-dire que ce n'est pas « cela » ou « cela », c'est « cela » et « ça ». Et peut-être que le dernier mot de cette émission, c'est que nous vivons un monde où il y a des barbaries, de nouvelles barbaries et des renaissances. La question qui est posée ce soir, pour aller où ? Je vous souhaite une bonne soirée.